Vira FM, actualité.
Merci de choisir Gira FM au micro Samuel Bogoto, les titres de ce journal. Une délégation de l'AIC s'est entretenue avec le chef de la MINUSCA. Démarrage des enregistrements sur le pré DDR à Bria, reportage de Christian Gbalou dans ce journal. Exploitation légale de la forêt en République centrafricaine, 12 observateurs indépendants étaient présentés aux partenaires. Bienvenue à tous. À la une de ce journal, une forte délégation de l'AIC, l'Alliance des évangéliques de la Centrafrique, composée de plusieurs pasteurs, est venue rencontrer lundi 2 novembre à Bangui le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Parfait Onanga Anyanga. Le but de cette rencontre avec le pasteur Anatole Banga, vice-président de l'AIC, au micro de Jean-Pierre Amissi Ramazani.
Les derniers événements qui se déroulent, ces événements malheureux qui se déroulent à Bangui, nous ont poussé à venir rencontrer le représentant du secrétaire général des Nations Unies et exprimer de vive voix les préoccupations des évangéliques, de lui dire quelles sont nos attentes de la part de la MINUSCA. Le représentant personnel du secrétaire général nous a expliqué les difficultés dans lesquelles la MINUSCA opère avec les moyens limités. Et il nous a promis que déjà il descendra sur le terrain pour voir de ses propres yeux les dégâts que nous lui avons rapportés. Il nous a aussi rassuré qu'ils vont continuer par travailler, même avec les moyens limités, pour que non seulement leur présence soit visible, mais que cette attente de la population soit satisfaite.
Et suivez le constat et l'appel de Gabriel Tanguy Nguamindou, le président de la jeunesse de l'AIC, par rapport à la situation sécuritaire actuelle en République centrafricaine.
La jeunesse centrafricaine vit dans sa chair les événements qui se passent dans notre pays. Et je crois que nous sommes, depuis un certain temps, en train de subir de plein fouet les retombées de tous ces actes qui se commettent dans notre pays. La jeunesse paie un lourd tribut par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. La plupart des élèves, des étudiants, tout ce qui s'était dans leur famille, présentement, ils se retrouvent dans les sites déplacés. Alors, leur avenir est compromis, leur scolarité est compromis, leur avenir est compromis. Du coup, ils se retrouvent dans un endroit où ils ne devaient pas se retrouver. Les familles sont disloquées, les parents sont obligés de fuir, abandonnant parfois même les enfants. Nous étions en conclave avec les leaders de la jeunesse. On a passé des messages, le message de tolérance, le message de retenue. Je crois que c'est ce que nous nous attelons depuis que les événements ont déclenché dans notre pays. Donc j'appelle la jeunesse à la retenue.
Autre volet de l'actualité, la section DDR de Bria a démarré l'opération d'enregistrement des ex-combattants dans la base des données dans le cadre des activités du pré-DDR. Cette opération s'est déroulée en présence du chef du bureau du secteur Est de la MINUSCA, Christian Balou.
Ce matin, l'on pouvait déjà constater la présence d'une trentaine d'ex-combattants devant le grand portail de la MINUSCA secteur Est. Un à un, ils sont accueillis par l'agent recenseur.
Barala si madame, toi y'a
si, y'a d'après.
Ala le kete, tsa l'ambimou, ala na photo.
Ces ex-combattants ne veulent plus entendre parler de guerre. Selon eux, c'est dans la paix qu'on pourra reconstruire la Centrafrique.
Elle aimerait abandonner les armes, avoir une vie meilleure, ou retourner à sa vie d'avant, avoir de l'argent pour faire du commerce et pour que la paix revienne dans son pays.
Oui, nous avons décidé de poser toutes les armes. Il faut remettre les armes et reprendre les activités normales.
L'opération d'enregistrement permettra, entre autres, à la section DDRR d'assurer une bonne gestion des participants auprès DDR, explique le coordonnateur de la section DDRR du secteur S, Jean de Dieu Intanga Intita.
Lorsqu'on se fait enregistrer, la première chose, on reçoit les certificats uniques et infalsifiables qui va attester matériellement qu'on a été identifié. La deuxième chose, nous avons les services ou les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il s'agit pas nécessairement d'activité physique, mais ça dépend des besoins de la communauté, ça dépend aussi des besoins des ex-combattants, parce que c'est un processus qui sera également individualisé. Donc c'est en fonction des besoins de l'ex-combattant et des besoins de la communauté. Et lorsqu'il le fait, il sera rémunéré plutôt de manière journalière, mais le paiement sera fait par semaine.
Le centre d'enregistrement a reçu la présence du chef du bureau de la MINUSCA secteur S. Omar Ba dit être venu encourager les ex-combattants à s'approprier le processus processus près des DR. Il leur a aussi demandé d'être des ambassadeurs auprès de leurs camarades qui n'ont pas compris ce processus.
Je voudrais inviter tous les ex-combattants à venir s'enregistrer. C'est un processus clair et transparent et surtout volontaire.
Et puis dans ce processus, toutes les dispositions ont été prises. Par exemple, après s'être enregistré, l'ex-combattant a droit à une prise en charge alimentaire, révèle le coordonnateur de la section DDRR du secteur Est. Christian Balou, Guiré FM, Bria.
Merci Christian. À Kakabanduro, il s'est tenu samedi dernier un face-à-face entre la MINUSCA et la population au camp des déplacés évêchés de Kakabanduro. Une occasion pour le secteur commandeur des forces de la MINUSCA et la section des affaires civiles d'échanger des informations avec les populations sur la situation sécuritaire et surtout sur le mandat de la mission onusienne en République centrafricaine. Au micro de Marie-Chantal Lumba, Abdou Ousmane de la section affaires civiles de la MINUSCA, Kakabanduro explique.
L'objectif de cette rencontre, c'était de faire un briefing par le secteur commande de force MINUSCA sur la situation sécuritaire à Bangui, à Bambari, mais aussi au niveau local. Et ça a permis de diffuser les tensions éventuelles et de renforcer la cohésion sociale au sein de Kakabanduro. Il a expliqué aux déplacés les différents incidents qui ont eu lieu à Bangui et les différentes tensions à Bambari qui peuvent avoir des liens avec la situation à Kakabanduro. Le commandant du secteur rencontre toutes les composantes, les groupes armés, la société civile, aussi les organisations pour leur expliquer la situation et pouvoir calmer la situation et la tension à Kakabanduro.
Vous estimez qu'une bonne information peut permettre de réduire certaines tensions?
Oui, effectivement, la diffusion de l'information à portée de main. Donc le secteur commandant a l'information sur tous les incidents qui sont passés à Sibut. Les gens diffusent des rumeurs. Lui, il a donné la bonne information pour permettre à la communauté, que ce soit la communauté musulmane, que ce soit la communauté chrétienne, qu'elle soit informée de ce qui se passe réellement et montrer que la MINUSCA est là pour tous les Centrafricains. Pour renforcer la paix. Il a dit que nous sommes des forces de maintien de la paix. C'est ça l'objectif de la rencontre et d'éviter toute rumeur, toute levée de tension ou bien levée de bouclier. Donc c'est pour promouvoir la paix.
Toujours à Kakabanduro, les autorités locales et les ONG de protection se préoccupent des cas de noyade dans la rivière Nana. Les dégâts enregistrés le mois d'octobre dernier a suscité des réflexions sur la mise en place des mesures pour éviter ce genre d'accident et sensibiliser la population. Shérif Abel, maire de la commune de Kakabanduro, est interrogé par Marie-Chantal Lumba.
Ce qui s'est passé, c'est que pendant les derniers troubles ici à Kakabanduro, comme il y a le passage des enfants dans la précipitation, c'est ça où il y a eu ces noyades là.
Et combien de noyades?
Il y avait deux. En commun accord avec l'ONG InterSos, on avait préconisé mettre des pirogues sur cette rivière et faire des pancartes de signalisation pour éviter ces noyades prochainement.
Mais entre-temps que vous puissiez mettre en place tous ces mécanismes-là, quels sont les conseils que vous donnez aux populations pour éviter les noyades?
Nous voulons mettre maintenant la population en garde. S'il y a cas de litige ou il y a cas de bruit, quand il y a des troubles, il ne faut pas passer par ce chemin. Il faut prendre le grand pont pour aller vers le marché ou pour revenir vers l'hôpital préfectoral. Il faut éviter ces passages-là.
Pour plus de transparence dans l'exploitation forestière en Centrafrique, 12 observateurs indépendants des activités forestières ont été présentés ce mardi à Bangui au gouvernement et aux acteurs impliqués dans la gestion forestière. Ils seront déployés sur le terrain afin de jouer leur rôle dans le cadre de l'accord de partenariat volontaire sur l'application de la réglementation et les échanges commerciaux du bois centrafricain signé avec l'Union européenne. Il s'agit donc de renforcer la gouvernance dans le secteur forestier. Patrice Sana est le coordonnateur du plateforme des organisations de la société civile pour la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement.
Aujourd'hui, le secteur forêt et environnement font l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté internationale du simple fait que l'exploitation clandestine des ressources naturelles, notamment celle des forêts, est étroitement liée à la corruption et à la criminalité organisée. Beaucoup de rapports d'observation indépendants du secteur forêt et environnement, provenant des organisations de la société civile à travers le monde, montre à quel point la corruption alimentée par les profits de l'exploitation clandestine ont pris de telles proportions qu'elles portent préjudice à l'état de droit, au principe de la gouvernance démocratique et au respect des droits de l'homme. Elle cause également d'énormes dommages à l'environnement, appauvrit la diversité biologique. Je voudrais citer ici les parcs nationaux qui n'échappent pas à la règle.
Jean-Jacques Matamalé, coordinateur du Centre d'information environnementale et de développement durable, résume ici la mission assignée à ces observateurs indépendants.
L'observation indépendante forestière est un instrument qui permet de veiller à ce que les bénéfices obtenus du fait de la gestion et de l'utilisation des ressources naturelles d'un pays soient partagés de manière plus équitable entre toutes les parties prenantes, en d'autres termes, que le système profite à l'État, aux sociétés et aux communautés, que les populations des pays concernés tirent profit de façon plus équitable de l'exploitation durable de leurs ressources naturelles. L'observation indépendante permet donc d'améliorer la transparence en ce qui concerne les informations et les décisions à prendre dans le secteur forestier, de procéder à une meilleure détection et poursuite des activités illégales et une meilleure application de la loi, de procéder à une meilleure gouvernance à travers un travail analytique, d'un débat éclairé et d'une plus grande participation. De manière globale, c'est un aspect très important de la gouvernance forestière et de la transparence.
Vincent Congo, directeur de cabinet au ministère des Eaux et Forêts, a souligné pour sa part l'intérêt que le gouvernement accorde au secteur forestier.
Comme vous le savez, le secteur agro-rural dans son ensemble et le sous-secteur forestier en particulier constituent, à ne pas douter, le pilier important de l'économie de notre pays par la création d'emplois et de richesses. Il est donc nécessaire et impérieux qu'un intérêt soit accordé à son exploitation, sa gestion rationnelle en vue de profiter de manière équitable à la population environnante, sans compromettre le bien-être des générations futures. C'est dans ce souci de lutter contre l'exploitation illégale de forêts et le commerce du bois qui lui est associé que la République centrafricaine s'est engagée dans la négociation de l'APV en 2009 avec l'Union européenne, ayant abouti à la signature de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges de bois et produits dérivés, FLEC, le 28 novembre 2011 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2012.
Et puis démarrage ce 3 novembre de la deuxième phase de la session de formation du personnel pénitentiaire sur la gestion efficace des établissements pénitentiaires en République centrafricaine, organisée dans le cadre du projet conjoint d'appui à la lutte contre les violations des droits de l'homme et à la relance de la justice en République centrafricaine. Cette formation d'une semaine est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Justice, la MINUSCA, le PNUD et ONIFEM. Bertrand Béthot est le chef des services de gestion des établissements pénitentiaires en Centrafrique. Il parle des objectifs de cette formation au micro de Boris Ngakouni.
Par rapport à l'article 22 de la loi numéro 12.003 du 12 avril 2012, fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire en République centrafricaine, le personnel pénitentiaire est tenu de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de sa mission. C'est dans cette perspective que la Direction générale des services pénitentiaires, en partenariat avec la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA et le projet conjoint avec le PNUD et l'ONUFAM a initié la présente formation. Ce que nous attendons, c'est la bonne gestion, la gestion efficace des établissements pénitentiaires en République centrafricaine. Nous allons nous assurer si les notions sont mises en pratique au moment où ces régisseurs vont regagner leur poste d'affectation. Et au niveau de l'administration pénitentiaire, nous allons assurer le suivi de tout ce que nous leur avons appris ici pendant cette formation.
16 régisseurs de prison venus des différentes villes de la RCA prennent part à cette formation.
Invité de la rédaction. Guira FM.
C'est le nombre approximatif actuel des déplacés adéquats dans la préfecture de la Kémo. Selon les humanitaires, ces personnes ont fui les affrontements qui se sont déroulés à Subit fin septembre, début octobre. Parmi ces déplacés figurent également des personnes qui ont fui des exactions commises par des hommes armés non encore identifiés. Selon Ocha Kakabandoro, qui s'occupe également de la zone où se trouvent ces déplacés. Des mécanismes sont mis en place pour tenter de répondre aux besoins vitaux de ces vulnérables. Lucien Simba, chargé des affaires humanitaires et chef du sous-bureau de Ocha Kakabandoro, est notre invité. Il est au micro de Marie Chantal Lumba.
Pour la population qui est présentement à Dekoa, on peut peut-être signaler deux choses. La première chose, c'est les chocs qui étaient liés aux clashs qui sont produits quand les groupes armés tentaient de descendre sur Bangui et qui avaient stationné tout près du village de Dissikou. Et cette présence avait poussé pas mal de populations à bouger vers la paroisse de Dekoa. Et puis, ça n'est suivi des clashs qui ont éclaté entre ces groupes armés et d'autres groupes armés qui étaient dans la zone de Dekoa. Et suite aux affrontements qui ont eu lieu, ces personnes, du moins les populations qui habitent ou qui habitaient dans les contrées de Dekoa, ont bougé. Et le 3 octobre, il y a eu encore une fois des affrontements au niveau de Dekoa Centre, et qui ont fait que les populations des quartiers de Dekoa ont pris peur et se sont dirigées vers la paroisse, vers la sous-préfecture et vers le village de Bemba qui est à 4 km de Dekoa. Et pour ces incidents, le nombre de déplacés a monté jusqu'à 10 000 personnes. Quelques jours après, ces personnes ont commencé à retourner chez eux. Et cette dynamique s'est interrompue quand les premières assistances alimentaires ont commencé à arriver sur Dekoa. Et du coup, on a constaté que le nombre de personnes avait sensiblement augmenté. Au moment où on commençait à compter 4 950 personnes sur les 3 sites, du coup, ce nombre s'est doublé. Bon, maintenant, ce que les humanitaires essaient de faire aujourd'hui, c'est d'arriver à identifier les réels déplacés et des personnes qui ont des raisons fondées de ne pas entreprendre ou amorcer les retours dans leur village et de les assister là où elles sont, dans des sites. Mais aussi de suivre ceux qui étaient dans les sites et qui sont déjà retournés dans les quartiers pour aussi les intégrer dans l'assistance de manière à ce que l'assistance ne puisse pas être une sorte d'appât qui appelle les populations à bouger de leur logement, de leur résidence pour aller se retrouver dans les sites.
Et qu'est-ce que vous leur donnez concrètement à ces personnes?
Ceux qui sont déjà déplacés au niveau de Dekoa, on a construit des abris communautaires pour eux. Parce que comme je disais, il n'était pas question à ce qu'on puisse fixer les gens dans les sites. Donc on a construit des abris communautaires à travers l'ONG NRC pour que les gens qui sont déplacés ne puissent pas passer nuit à la Belle Étoile et que comme vous savez, nous sommes pendant la période pluvieuse. Des maladies liées aux intempéries ne puissent pas surtout affecter des enfants ou des femmes enceintes. Donc ça a été fait. On a veillé à ce que cette population qui était en mouvement puisse avoir l'accès à l'eau. Et là, nous félicitons nos collègues de NRC et du CICR pour le travail qu'ils ont fait, en fait de pouvoir alimenter le château d'eau qui est dans les sites de l'église catholique, mais aussi l'aménagement du puits qui se trouve dans le village de Bemba. À côté de ça, il y a eu déjà une première distribution de vivres et de pain. Et aux dernières nouvelles, il y a une bonne cargaison de vivres qui est arrivée de 5 camions pour pouvoir compléter la ration. Et là, je voudrais signaler qu'avant, on avait donné une ration de 10 jours. C'était le 17. Et là, on est déjà prêt à compléter maintenant cette ration pour en faire une ration mensuelle, donc de 30 jours. Et une autre assistance qui a été apportée, c'est sur le plan protection, parce qu'un monitoring a été fait par l'ONG Intersource et NRC, et de manière à ce que la communauté musulmane qui est à Dekoa a été approchée et intégrée aussi dans l'assistance. De manière à ce qu'aujourd'hui aussi, ils essayent maintenant à recevoir des soins à travers des cliniques mobiles qui s'organisent avec les centres de santé de Dekoa et avec les sœurs catholiques qui prennent en charge de la malnutrition, des cas de malnutrition au niveau de Dekoa. Donc globalement, l'assistance s'est mise en place, je dirais, 24 heures après le premier incident. Et l'assistance a augmenté en fonction des arrivées et en fonction aussi des départs de certaines personnes vers le quartier. et cette assistance continue. Et nous sommes en train maintenant de voir comment l'adapter au contexte et surtout de veiller à ce que ceux qui ont besoin de l'assistance puissent l'avoir sans nécessairement être obligés de bouger de chez eux.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. Yves Damanzi est sur la manette. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Restez toujours à l'écoute de Guira FM sur la 93.3.
Attachez vos ceintures.